Eh bien, ceux qui sont là pour le forum suivant, à savoir la catastrophe d'AZF, total coupable, un sinistré sans fenêtre raconte, de Jean-François Grelier. Rapprochez-vous un petit peu, de façon à laisser la place ensuite aux autres arrivants. Et on va tout de suite donner la parole à Jean-François.
Alors, la catastrophe AZF, c'est il y a presque 14 ans. Donc, il est possible que vous ne vous rappelez pas bien des circonstances. Donc, l'usine AZF a été située en pleine ville, à Toulouse. Et donc, le 21 septembre, à 9h40, elle explose. Et donc, il y a eu 21 morts. Il y a eu 2200 personnes hospitalisées, blessées graves, donc. Et ensuite, 22 000 blessés, remboursés par Total, reconnus par Total. Du point de vue du bâtiment, il y a eu 1 000 logements détruits, 10 000 dévastés, c'est-à-dire sans porte et sans fenêtre, et environ, beaucoup plus, au moins 20 000, pas mal amoché. Cette explosion a eu des effets comparables à un bombardement. Les images qu'on voit de Toulouse juste après, c'était Beyrouth. Alors aujourd'hui, on sait très précisément ce qui s'est passé. AZF, l'usine AZF, avait décidé de recycler les sacs. Tous les ans, il y avait des dizaines de milliers de sacs utilisés, de petits sacs de 50 kilos jusqu'à des sacs d'une tonne. Et la mode écolo, c'était bien de recycler. Et donc, un sous-traitant avait été recruté pour s'occuper de ce retraitement en vue du recyclage des sacs. Or, l'usine AZF produisait deux sortes de produits. D'une part, les ammonitrates, qui sont connus. Il y a deux sortes d'ammonitrates. Les ammonitrates agricoles, ils sont connus parce que c'est eux qui polluent les plages bretonnes. Et puis, les ammonitrates industriels, qui sont un explosif. Et bon, qu'un explosif explose, c'est pas vraiment étonnant. Et puis, il y avait une deuxième sorte de produit, c'était les dérivés de l'urée, des dérivés chlorés, et en particulier le DCCNA, qui est un produit pour traiter les piscines. Et lui aussi, il explose de temps en temps, dans des réserves des mairies. Et donc, ce sous-traitant, il rentre le 17 septembre de congé. Et là, dans un hangar qui s'était approprié, il y avait 3000 sacs qui l'attendaient. Et on lui demande de nettoyer ces sacs dans la semaine pour les donner aux recycleurs. Normalement, les sacs, on devait les livrer vidés et lavés. Mais par une dérive classique, c'était plus le cas. Et les sacs, ils avaient encore du produit. Et certains, 500 grammes, des fois jusqu'à 50 kilos. Et donc, pressé par le temps, il prend une benne blanche, et il met dans cette benne blanche tous les fonds de sac. Et puis, le vendredi matin, il va déposer ses fonds de sac dans le sas du bâtiment 221, qui était un bâtiment qui stockait les ammonitrates pas commercialisables. Et un quart d'heure après, ça explose. Et il a été démontré, y compris par les laboratoires mandatés par Total, que le mélange des ammonitrates avec ce dérivé chloré, avec de l'eau, ça explose très vite et très fort. Donc, on sait parfaitement ce qui s'est passé. Donc, le quartier, il ressemblait à un quartier en guerre, mais dans les têtes aussi, c'est un monde qui s'est écroulé. Et pendant un certain temps, les émotions ont empêché de penser. Les salariés ramassent leurs morts, puis ils comprennent que c'est tout le quartier qui a explosé et que donc on va les accuser. Et que, en conséquence, l'usine va fermer, qu'ils vont perdre leur boulot. La direction leur parle, les rassure, alors que les syndicats se taisent. Et puis, quand ils se mettent à parler, ben, c'est pour oublier tout leur combat passé et de choisir. Et ils choisissent de défendre la thèse de l'attentat, hein, qui est exonérée complètement Total. Par contre, Total, lui, garde la tête froide. Dès le dimanche 23 septembre, deux jours après, sa commission d'enquête interne est sur le site pour enquêter et en fait pour faire disparaître les preuves. Ils auditionnent le sous-traitant, hein, qui a fait le mélange fatal le dimanche après-midi. Et dans le compte-rendu, hein, de la réunion, il est dit qu'il était parti en pleurant. Le SRPJ, hein, la police, hein, qui a été mandatée par le magistrat instructeur pour faire l'enquête, lui, il mettra 3 semaines pour apprendre l'existence de cette benne. Et elle avait disparu, la benne. Total, d'autre part, il encourage les rumeurs les plus scabreuses et une abondante littérature complotiste. Alors, il faut dire que le 21 septembre 2001, c'était 10 jours après l'explosion avec l'attentat sur les tours jumelles. Donc, c'était pas imbécile de penser à un attentat. Sauf que rien ne permet d'étayer, en quelque façon que ce soit, cette thèse. Alors, par contre, il y a des notes blanches des RG, hein, bon, ramassées. Les ragots les plus scabreux, les plus imbéciles, qui se retrouvent comme par hasard dans les pages du Figaro et de l'Express, et puis sur France 3 à Toulouse. Alors, dans ces fables, il y a notamment l'histoire d'Hassan Jandoubi, qui était un intérimaire qui bossait dans le bâtiment qui a explosé et qui est mort, hein, dans l'explosion, et qui avait plusieurs slips, et que donc c'était un terroriste. Hein, parce que les terroristes, ils prennent plusieurs slips, hein, pour arriver en bon état avec les 7000 vierges qui les attendent dans le ciel. Et donc, en fait, c'est bien plus simple que ça. Hein, les engrais, c'est de la saloperie. Hein, et tous les mecs qui bossent dans l'engrais, ils prennent... sur leur slip un caleçon long, et puis dessus un jean, et puis dessus un kawé, bon, parce que ça attaque, hein, et qu'il faut se protéger. Ensuite, Total, il va utiliser tous les services de l'État pour mettre en place un mode de dédogement amiable. Chaque sinistré, hein, négocie en toute liberté avec la machine Total un chèque de dédommagement contre un solde de tout compte. C'est la liberté du loup dans la bergerie. Hein. Et au bilan, il y a des dizaines de milliers de victimes cachées, pas indemnisées ou mal indemnisées. Et d'ailleurs, il y a certains traumatismes qu'aucun dédommagement ne peut guérir. Et enfin, Total, il va réussir son coup de maître, c'est-à-dire semer la division entre les riverains et les salariés, pourtant tous victimes de la même catastrophe, avec un même responsable qui est Total. Alors, il y avait une situation. Hein, il y avait quand même 3 à 4 000 ouvriers qui se retrouvaient au chômage, et il y avait 40 à 50 000 sinistrés sans fenêtre. Si ces deux forces avaient su s'unir, tout aurait été possible. Mais il se trouve que le débat a d'abord été mobilisé par la question de, du site chimique. Hein, les salariés, hein, tous unis derrière le syndicat pour que le site rouvre, alors que l'explosion l'avait fermé. Hein, voilà. Alors que les sinistrés étaient évidemment hein, pour que le site ne réouvre pas. Hein, c'était une bombe en pleine ville. Bon, ça fait pas envie. Hein. Mais ce débat, il ne pouvait que dresser ces deux types de victimes, salariés et sinistrés, les uns contre les autres. Or, à côté de ça, hein, il y avait quand même 50 000 sinistrés qui n'avaient plus de portes et de fenêtres. Et tout s'était arrêté dans le quartier. Il n'y avait plus de commerce. Et la plupart des entreprises avaient fermé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation où tout notre cadre de vie était détruit. Et donc, on s'est attelé à la tâche. Et en fait, il nous a fallu 50 jours pour réussir à construire un mouvement de sinistrés. Et 50 jours, c'est long, c'est très long. Alors, nous avions un programme simple, hein, qu'une loi d'urgence soit votée. Hein, une loi qui passe par des réquisitions pour que l'État reconstruise ce qui avait été détruit et qu'il se fasse ensuite rembourser par Total. Bon, et notre programme était parfaitement compris et très vite par les sinistrés des quartiers pauvres, hein, les quartiers du Mirail, d'Ampalo, à Toulouse. Alors c'est ainsi que notre collectif des sans-fenêtres est né et qu'il a pesé sur les événements. Hein, nous avons réussi à rassembler 800 personnes au cœur du Mirail et la France entière a découvert hein, ce 11 novembre, alors qu'il gelait d'ailleurs, a découvert que, ben, qu'il y avait 50 000 personnes à Toulouse, hein, presque deux mois après l'explosion, qui n'avaient pas de fenêtre. Alors, bon, c'est d'avoir réussi ça, c'était évidemment une victoire hein, morale. Hein, les habitants des quartiers sont fait attendre, entendre, alors que d'habitude ils passent complètement à la trappe. Et puis se battre, se mobiliser, former un groupe déterminé, militant, solidaire, ça nous a fait beaucoup de bien à tous. Alors, bon, la victoire morale, c'est bien, mais concrètement. Alors, concrètement, on n'a bien sûr pas obtenu le plan d'urgence, mais on a obtenu quand même des petits trucs. Enfin, notamment ce qu'on a appelé le provisoire durable, par humour. C'est-à-dire qu'il y a eu une mesure générale, gratuite, pour tous. C'est le placement de contreplaqués ou de plexiglas pour remplacer les fenêtres. Donc, ce n'était pas l'idéal, mais ça permettait quand même de survivre dans ces appartements. Et, enfin, on a obtenu ensuite le paiement des surfacturations de chauffage par Total. Et puis, la création de cellules d'urgence sur... les réparations hein, et sur les assurances par la mairie de Toulouse. Bon, alors, évidemment, c'est pas Total qui a payé. Enfin, et les sinistrés, ils se sont débrouillés tout seuls au bout du compte. Hein. Moi, j'étais très frappé quand je discutais avec des camarades, un an, deux ans, trois ans après. Les camarades me disaient systématiquement, alors, ils t'ont relogé ? Et non. Hein, ça paraît naturel à tout le monde qu'on a relogé les gens. Eh bien non, les gens, ils se sont démerdés comme ils ont pu. Hein, il n'y a eu aucune mesure globale en faveur des populations. Alors ceci dit, bon, on a quand même construit un petit groupe et plus tard, on s'est retrouvé à un moment, au moment du procès pénal. Hein, il faut savoir que le magistrat instructeur a toujours refusé systématiquement d'aller enquêter du côté de la Tour de la Défense à Paris, du côté de Total. Hein, il s'en est tenu aux responsabilités locales, hein, des petits cadres toulousains. Et donc, on a décidé de se lancer dans une procédure un peu rare qui s'appelle la citation directe, hein, où des parties civiles, hein, des victimes, peuvent contester les conclusions d'une enquête en disant, ben, d'après nous, c'est pas celui qui est désigné qui est le vrai coupable, c'est un autre. Et pour nous, le vrai coupable, c'était Total. Et son PDG à l'époque, Thierry Desmarais. Et donc, on a eu un peu de pot, on s'est débrouillé. Enfin bon, on a réussi à avoir 106 signatures. Hein, la plupart, c'était des gens de la Cité du Parc où j'habitais. Hein. Et on a fait un bon timing qui a fait que c'était trop tard pour décider et que le terme juridique, c'est que la citation a été jointe au fond. C'est-à-dire qu'au début du procès, la question de savoir si Total était coupable s'est posée. C'était impossible de répondre. Donc, il a été décidé, hein, de considérer que le procès se faisait avec deux mises en examen supplémentaires. Une personne morale Total, une personne physique, le PDG Thierry Desmarais. Ce qui a fait que Desmarais a été obligé de venir témoigner et s'expliquer pendant le procès. Alors, c'est symbolique, c'est moral, mais ça nous a fait plaisir quand même. Et puis, bon, un dernier petit truc, c'est cette année, enfin, début de l'année dernière et cette année, on s'est aperçu que Total ne remboursait plus les prothèses auditives et donc on a relancé un mouvement et là c'est reparti, on est une cinquantaine et on a fait cracher à peu près 1 million d'euros en 6 mois à Total. Bon, pour eux c'est rien bien sûr, mais c'est pas mal. Voilà. Alors, pour finir, enfin, je voudrais quand même parler des rapports respectifs de Total et de l'État. Hein, parce que, évidemment, c'est Total le responsable, c'est Total qui était le maître d'œuvre, c'est lui qui a géré son affaire. Mais, quand même, il a fait ça en complète connivence avec l'État. Parce que Total n'est pas suspendu en l'air. Hein, moi, j'ai fouillé un peu et Total dit lui-même que 87% de son actionnariat, c'est des actionnaires institutionnels. Alors, savoir ce que ça veut dire, c'est bien compliqué. Hein, mais en tout cas, ça veut dire que c'est une société qui est complètement imbriquée dans l'appareil d'État. Alors ça, on peut le voir parce que Total bénéficie d'une législation sur mesure, hein, qui lui permet d'exploiter le pétrole dans le monde entier sans payer d'impôts en France. Une législation qui lui permet d'imposer son mode de fonctionnement sur la sécurité, hein, sans que les institutions de contrôle... la DRIR à l'époque s'appelle le DREAL maintenant, hein, ou l'INERIS, puisse lever le petit doigt. Une législation qui lui permet de se cacher derrière une filiale virtuelle, grande paroisse, une coquille vide, pour échapper à une condamnation. Et cette législation, hein, en cas d'une faute d'un industriel, elle prévoit une sanction maximum de 225 000 euros. Vous vous rendez compte? Alors que Total, je le rappelle, fait entre 10 et 15 milliards d'euros de bénéfices avoués. avoué. Bon, comment il en fait vraiment, je ne le sais pas, mais sans doute plus. Hein. Donc, en ce qui concerne le procès civil, c'est-à-dire les dédommagements, la cogestion entre l'État et Total est manifeste, parce que c'est le ministère de la Justice hein, qui a parrainé l'accord entre Total et les assurances hein, pour le fameux accord amiable, hein, qui a permis à Total d'avoir une collection de soldes de tout compte hein, très très rapidement. D'ailleurs, je ferai remarquer que pour l'État, la crise AZF a été une opération blanche, parce qu'il a été lancé évidemment une grande campagne de dons hein, qui a réuni près de 8 millions d'euros de dons, et tous les frais supplémentaires enfin, dus à la crise de la mairie de Toulouse ont été couverts par les dons. C'est une opération blanche. Alors, dans le procès pénal, donc il y a d'abord eu le refus systématique hein, d'inquiéter Total, hein, d'aller chercher des responsabilités au niveau du groupe. Mais j'ai parlé aussi du rôle de la commission d'enquête interne de Total, hein, qui deux jours après l'explosion était là, a compris très vite ce qui s'était passé et a fait en sorte d'effacer toutes les preuves. Alors, effacer, c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est très concret. Le procès en première instance a abouti à une relaxe générale. Bon, eh bien, cette relaxe a été motivée par l'absence de preuves. Et très précisément, le tribunal a regretté hein, que la fameuse benne blanche se soit volatilisée. Il y a une photo, trois jours après, le lundi 24 septembre, de la benne blanche, et depuis, elle a disparu. Et cette benne blanche n'existant plus, ça devenait impossible de condamner Total. Or, cette benne, elle n'a pu être, elle n'a pu disparaître hein, que parce que les cadres dirigeants de grandes paroisses l'ont fait disparaître. Et en premier lieu, la commission d'enquête interne. Alors, cette commission d'enquête interne, pendant tout le procès, on a les avocats, le procureur, hein, a regretté son attitude. Sauf que c'est la loi qui lui demande de faire ça. Hein, c'est la loi qui demande à l'industriel de mettre en place, dès qu'il y a un accident ou même un incident, une commission d'enquête. Hein, donc, Total n'a fait que respecter la loi. Hein, donc, c'est pas Total qui est en faute, là. C'est la loi hein, qui, enfin, que Total a fait, peut-être. Hein, mais, bon. Alors d'ailleurs, l'inspection du travail n'a pas fait mieux, hein, parce qu'il y a une inspectrice du travail qui a fait une enquête très poussée, qui elle aussi a compris très très vite. Mais là, c'est son directeur départemental qui lui a interdit de communiquer ses résultats à la police. Alors finalement, la faute a été reconnue en appel, et Grande Paroisse, pas Total, mais Grande Paroisse a été condamnée en appel. Bon, alors vraisemblablement, ça a tenu à pas grand-chose, mais c'est l'attitude insultante de Total, les avocats de Total envers la Cour qui a vraiment... Enfin, il y avait un climat insupportable, et c'est sans doute ça qui a pesé dans le sens de la condamnation. Mais, dernier rebondissement, le procès a été cassé. Hein, pour des raisons enfin, rocambolesques. Et l'appel a été fixé à Paris, alors que nous sommes Toulousains. Pendant les deux premiers procès, il y avait 400 à 600 sinistrés, des quartiers pauvres, du Mirail, d'Ampalo, qui étaient là tous les jours. Alors, c'était une présence muette, polie, mais ils étaient là. À Paris, j'ai calculé que il fallait avancer environ 8000 euros pour pouvoir être présent à l'ensemble des audiences. Hein, et avec l'espoir d'être remboursé, peut-être sur facture et avec des montants maximum, hein, tarif SNCF deuxième classe, 90 euros pour le gîte et le couvert par jour, mais sur facture et après examen du dossier. Pendant le même temps, Mémoire et Solidarité, qui est l'association qui regroupe les salariés de Total qui ont pris fait et cause pour Total, lance une souscription. Et Total s'est engagé à abonder. Ils auraient déjà récupéré 200 000 euros et en le doublement par Total, 400 000 euros. Et donc, ils vont pouvoir, eux, payer le déplacement à leurs obligés. Ils pourront même peut-être faire un tour. On pourra peut-être les allécher en leur disant qu'ils pourront faire un tour à Pigalle le soir. Et donc, il y a un peu la garantie que cette salle sera complètement acquise à Total. Or, pourquoi c'est à Paris ? L'audience de cassation, elle a eu lieu en octobre. D'habitude, le délibéré, le résultat, c'est un mois et demi après. Or là, il était fixé le 13 janvier. Pourquoi ça ? Eh bien, parce que le 26 décembre, il y a eu un décret qui est sorti, qui a fixé le procès de toutes les grandes catastrophes industrielles à Paris. Donc, il suffisait d'attendre assez pour que le délibéré tombe sous le coup du décret et donc se soit fixé à Paris. Donc je crois qu'on ne peut pas mieux voir la connivence totale entre Total et l'État, le gouvernement, etc. Donc voilà, c'est il y a Total, il y a l'État, mais c'est les mêmes. On appelle ça le capitalisme. Voilà, si vous voulez, vous avez des questions à poser. Ouais.
Ouais, c'est au sujet des syndicats, donc. Tu l'as un peu évoqué, mais donc, si j'ai bien compris, les syndicats, ou je sais pas lesquels, si avec la CGT, je sais pas, ont carrément passé avec Total, quoi, si je comprends bien. Est-ce que ça a été un peu. Parce que, bon, quand on parle des syndicats, il y a les syndicats de la boîte, mais il y a tout le reste aussi. Sur Toulouse, est-ce que. Toutes les organisations syndicales ont été derrière justement les syndicats de la boîte qui eux-mêmes ont été derrière Total.
Bon, alors, si on veut rentrer un peu dans les détails, donc il y avait la CGT qui était majoritaire, très majoritaire. Et c'était, il y avait un secrétaire qui était un gars combatif, qui n'hésitait pas à barrer la Nationale 20 en cramant des palettes de temps en temps, qui sortait des tracts, par exemple, pour dénoncer la suppression des postes de pompiers pour la sécurité. Sauf que ce gars, il était aussi animateur sécurité. Donc, je ne sais pas moi si c'est possible d'être les deux à la fois. Bon, il était travaillé en 3-8, et puis à un moment, il est nommé animateur sécurité, il passe en normal, avec des horaires extrêmement souples. Bon, mais en échange, il faut qu'il fasse un peu la morale à ses copains. Il faut qu'il porte des godasses de sécurité, il faut qu'il mette lunettes de sécurité, etc., etc. Bon, tant que rien de grave ne se passe, c'est peut-être possible de faire les deux à la fois. Mais quand il arrive un choc de cette puissance, ben on ne peut plus ménager la chèvre et le chou. Hein, il faut choisir. Et donc, et ça, c'est Georges qui le raconte, qui était un copain à nous, hein, bon, qui a essayé de résister contre ça. Ben, Georges raconte que à la première réunion de la CGT, il a essayé timidement, le secrétaire Mignard, là, il a essayé timidement, hein, de mettre en cause le patron, et puis on dit non, mais attends, il ne faut pas parler contre nous. Et donc ça a été sa seule tentative, et puis ça a été fini. Hein, et lui, il est passé corps et bien dans le camp de Total, et y compris 15 jours après, en venant expulser Manu Militari des sinistrés qui avaient occupé l'assureur de Total, AXA. Bon, alors quand il se passe quelque chose de cette ampleur, ben, faut être solide sur ces gens pour savoir ce qu'on veut. Il faut résister. Et puis, si on sait résister, il est vraisemblable que les choses se retournent à un moment donné. Et là, ça a été le raz-de-marée. Et ça a été... il n'était plus question, hein, de parler contre Total, parce que du coup ça allait empêcher la réouverture. Hein, c'était un truc de fou. Mais voilà, les syndicats, ils ont sombré complètement. Alors après l'union départementale, CGT, ça a été un peu pareil. Hein, ils ont pas essayé de se bagarrer contre ça. Voilà. Donc à l'usine, il y a eu quelques gars autour de Georges qui ont essayé de se bagarrer. Hein, et puis, mais ils n'ont pas gagné. Ah ben bien sûr. L'usine, elle avait été fermée par l'explosion. Elle n'existait plus. Et imaginer qu'on puisse la reconstruire, c'était mentir aux gens. Et d'ailleurs, aussi bien les syndicalistes qui avaient ce programme que le directeur de l'usine savaient qu'il mentait aux gens. Hein, mais ça permettait de tenir d'empêcher la mobilisation.
Ben voilà, moi je connais pas tout, mais quand ça a sauté, moi j'habitais à ce moment-là près du canal du Midi, et il y a mon voisin du dessous qui dit ça y est, c'est l'Onia. Tout de suite, hein, direct. Dès qu'il a entendu le boom, il n'a pas dit non, c'est la voisine d'en bas. Il a dit c'est l'Onia, parce qu'il l'appelait comme ça avant à ZF. Il l'appelait l'Onia. Et il m'a dit, ben voilà, après on en a parlé avec cet ancien. Et il m'a dit, voilà, parce qu'ils prennent des intérimaires qui ne connaissent pas les produits. Au lieu de garder les gens qui, voilà, en CDI, qui connaissent les choses, etc. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un problème, parce qu'il y a eu des intérimaires qui mélangeaient tout, parce qu'ils ne connaissaient pas les pauvres jeunes, peut-être. Je ne sais pas. Je pose la question. Hein.
Oui, alors moi, je ne suis pas de Toulouse, je suis de Rouen. À Rouen, il y a une autre usine AZF qui a été vendue d'ailleurs par le groupe Total il y a un an à un groupe autrichien qui s'appelle Borealis. Alors je voulais juste intervenir sur deux points. Le premier point d'abord, c'est est-ce que la catastrophe aujourd'hui peut réarriver ? Bien sûr, parce que je crois que ce qu'il faut aussi dire, c'est que Évidemment, après chaque catastrophe, on nous fait des lois, des décrets, etc. Mais que globalement, la loi Bachelot, hein, qui a soi-disant donné des droits supplémentaires, notamment au CHSCT, hein, c'est des droits qui existaient pour la plupart avant, et que les contraintes réglementaires soi-disant qui sont imposées par les préfets ne changent pas les conditions de travail au sein même de cette entreprise. Hein, on l'a vu sur, par exemple sur AZF à Rouen, hein, on a toujours des plans de prévention annuels et on a toujours des sous-traitants, hein, dans lesquels il y a la politique du moins 10 ans, et donc avec les salariés de moins en moins formés. Et on a régulièrement des accidents du travail graves, avec notamment des amputations, etc. Hein, donc ce type d'accident et de catastrophe industrielle peut arriver. Et on l'a vu il n'y a pas longtemps, y compris dans le groupe Total au Havre, où il y a eu l'explosion d'un bac d'acide sulfurique, hein, qui aurait pu avoir une réaction en chaîne sur l'ensemble de la raffinerie. Donc ça, effectivement, il y a une responsabilité particulière de l'État sur le fait de ne pas changer les règles du jeu, hein, pour augmenter les profits et pas prendre de mesures contraignantes. Après, je voudrais intervenir sur le deuxième point. Regardez un peu quand même ce qui s'est fait à la cour d'appel. Alors, je ne dis pas les premiers jours. Hein. Effectivement, je crois que le syndicat de l'entreprise, en tout cas grande paroisse, est rentré dans le jeu du patron. Ceci dit, il y a quand même des choses qui changent. Me semble-t-il que d'abord à la cour d'appel, l'ancien secrétaire du CE est intervenu à la cour d'appel contre Total. Et que pour le coup, même si ça a pris du temps, et l'Union départementale CGT et la Fédération de la chimie, y compris la Confédération CGT, qui ont plein de défauts par ailleurs, ont eux-mêmes fait une citation directe en correctionnel, hein, pour contraindre aussi le PDG de Total à venir s'expliquer effectivement à ce niveau-là. Donc ça pose aussi la question de la bagarre dans la CGT, hein, pour continuer à ce que la CGT continue à défendre l'ensemble des victimes et à s'opposer, hein, clairement, et pas à négocier avec les grands industriels, mais avoir une politique de classe, quoi.
Oui, sur la question des intérims, hein, intérim qui connaît pas bien le boulot et qui aurait fait la connerie. Bon, la production quand même, c'est les intérims, ils faisaient de la manutention, et ils intervenaient pas pour là où c'était, ça demandait des compétences. Importante, hein, bon. Mais je voudrais juste rappeler un moment du procès, du premier procès, où il y a un sous-traitant qui est appelé à la barre pour témoigner. C'est un gars qui bosse depuis 20 ans dans la boîte. Et donc... Le président du tribunal lui dit, c'est obligatoire de faire des formations, une formation par an. Vous avez fait des formations. Il dit une seule fois en un an, une seule fois en 20 ans. Ah bon, mais enfin c'est obligatoire, comment ça se fait? C'est pas possible. Et alors là, le gars lui dit, écoutez, moi... Je transporte à l'épaule tous les jours 40 tonnes de produits. Si on me dit que pendant 2 heures, je vais être assis à branler, mais j'y vais tout de suite. Et je vous assure que si on m'avait proposé une formation, j'y serais allé tout de suite. Mais on ne me l'a pas proposé. Hein? Et alors il insiste un peu, le président, il lui dit, oui, mais quand même, il y avait des animateurs sécurité. Il vous mettait en garde. Vous connaissiez bien M. Mignard, le secrétaire de la CGT, là, qui était animateur de sécurité. Il me dit, Mignard, ben, ah oui, je le vois tous les jours à la télé, oui. Donc, enfin, les sous-traitants, ils font ce qu'ils peuvent. C'est les boulots les plus durs, hein, les plus sales. Hein, jamais dans des positions cruciales, hein, pour la production. Hein. Voilà, mais c'est pas c'est pas l'explication, hein. Alors pour ce qui est de la CGT, alors effectivement dans la CGT là actuellement ceux qui restent, j'ai de bons rapports avec eux, hein. Et le secrétaire du CE, hein, il a effectivement changé pour le procès en première instance en 2009. C'est un gars, bon, il a mis 8 ans pour comprendre. 8 ans. Bon, eh bien, s'il avait été un peu plus rapide, ça aurait peut-être changé les choses. Par contre, la fédération de la CGT, la fédération de la chimie CGT, moi, je trouve que ils ont toujours, concernant AZF, fait le travail correct et pris de bonnes positions. Hein. Ça, moi, j'ai rien à leur reprocher de ce point de vue.
Vous avez fini l'exposé en nous disant qu'il y avait l'appel à Paris et il a eu lieu. Enfin, le procès a eu lieu à Paris.
Non, le procès, il va avoir lieu. On ne sait pas quand.
Okay.
Le délibéré fixant l'appel à Paris, il date du 13 janvier 2015. Voilà.
D'autres questions?
Oui, oui, alors attendez, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a le livre de Jean-François qui est là en vente au stand là-bas au fond du chapiteau et vous pouvez continuer à discuter avec lui au fond du chapiteau. Mais on le remercie. Voilà.